Je m'appelle Pierre Laurent et je présente On the Road Again tous les jours de 15h30 à 19h30.
Classique 21, Close to You, un podcast signé Dominique Dricot.
Bonjour Pierre Laurent.
Salut.
À nous maintenant de parler de toi. J'ai appris que tu as commencé à faire de la radio, que tu étais tout petit.
Oui, c'était pour ma maman. J'avais mis, tu vois, les babyphones.
Ouais.
J'avais mis un babyphone dans ma chambre au-dessus de ma platine. Et le babyphone de réception dans la cuisine où ma mère, voilà. Ben, je faisais des émissions radio, voilà, à partir de ma chambre. Et puis après, mes parents, ils avaient des grandes surfaces, notamment un Sarma. Et il y avait un micro d'appel. Et je m'en servais pour faire également de la radio. Je devais avoir 7-8 ans. Voilà, et les clients m'entendaient.
Oui, donc tu avais déjà un auditoire, des auditeurs, puisque c'était les clients de la grande surface.
Oui, tout à fait. Ouais. Et puis après est venue l'envie, je pense que je devais avoir 8-9 ans, l'envie mais vraiment extrême de faire de la radio. C'est ce que je voulais faire, et rien d'autre.
C'est fou, parce que si j'ai bien compris, tu as passé une partie de ton enfance de manière formidable, hein, merveilleuse.
Ouais,
tu étais tout épanoui.
Ouais,
tu bossais, tu étais un très bon élève en primaire.
Oui, alors en primaire, oui.
Après, et puis ça s'est gâté.
Après, ça s'est gâté parce que bah, voilà, je m'emmerdais à l'école et que je n'avais pas l'impression que Pythagore allait me servir tu vois, dans ma vie de tous les jours. Pareil pour le latin. Je n'allais pas devenir pharmacien, donc il n'y avait aucune raison d'apprendre cette langue. Et puis à part l'histoire, la géo et la gym... Le reste, voilà, je m'en foutais un petit peu.
Oui. Mais toujours cette obsession de faire de la radio.
Ah oui, tout le temps. Et voilà, dès le matin, j'avais un réveil radio et je me réveillais par exemple avec la voix de Maurice Favière qui faisait les petits matins en France. Donc voilà, c'était un véritable délice. Et voilà, je passais du temps à écouter la radio tout le temps. Oui.
Tu m'as un jour dit... en passant devant le jardin du Mailleur, que
oui.
C'était un univers qui te fascinait, parce qu'à l'époque, la RTBF se trouvait là-bas, à Mons.
Oui, alors c'est un épisode, je ne sais pas, triste ou joyeux, j'en sais rien, mais à un moment donné, bon, voilà, je triplais ma deuxième secondaire, ou ma troisième, non, ma troisième, voilà. Et je m'étais inscrit à Saint-Luc, et je pense que sur 3 mois, j'ai été deux fois au cours, parce que j'allais voir Patrick Duhamel, faire son émission, je pense qu'il s'appelait 4 Midi, Cap Musique, voilà. Il laissait la fenêtre ouverte, et de dehors, voilà, je m'installais sur la pierre de la fenêtre, et puis je le regardais travailler, et j'adorais ça. Et puis on parlait ensemble, et puis il me donnait des conseils, et puis voilà.
Ta passion pour la radio contribuait au fait que tu n'étais pas un bon élève, c'est ça qui est drôle.
Oui, c'est clair, parce que voilà, je savais exactement ce que je voulais faire et je me disais que ce que j'apprenais à l'école ne correspondait pas du tout avec mon projet de vie. Après, voilà, je respectais les profs, enfin, ça dépend lesquels,
ouais.
Parce que je me suis fait quand même mettre à la porte de plusieurs établissements et puis voilà quoi, mais... Oui, j'étais vraiment un fainéant.
Ouais. On va dire un démotivé.
Ouais, démotivé.
En tout cas pour l'école ouais. Telle qu'on la connaît. On va faire un petit bond en arrière.
Oui.
Binchois et fier de l'être.
Ah bah oui, Binchou d'ailleurs.
Binchou.
Né à Binche, ce qui n'existe plus maintenant puisque la maternité a fermé, je pense que c'est au milieu des années 80. Et d'ailleurs, juste après sa fermeture... Je ne sais pas si tu sais, mais tu vois le film « La vie est un long fleuve tranquille ».
Tout à fait.
Les scènes de maternité se sont tournées à Binche, avec Daniel Gélin, etc. etc. Voilà.
D'accord.
Et donc, voilà, né à Binche, j'ai vécu à Binche pendant une trentaine d'années. J'étais le plus jeune tamboureur de Binche. Je devais avoir 5 ans quand j'ai commencé à jouer du tambour, dans la société des Pierrots. Et les Pierrots, c'est l'école des frères, en fait.
Mmh.
Voilà.
Donc,
c'est les primaires.
Oui, donc tu es devenu tamboureur quand tu étais tout petit.
Oui.
C'est ça l'information, c'est que Pierre
oui.
Laurent était tout petit.
Oui, et que, oui, difficile à croire avec mon maître 90, mais oui, j'ai été tout petit. Mais voilà, ce qu'il y a, j'ai toujours été fasciné par la musique parce que mon grand-père paternel était lui-même un musicien, il était violoniste, il était clarinettiste, il était pianiste. D'ailleurs, j'ai à la maison, j'ai toujours son violon qui a une centaine d'années et sa clarinette.
C'est pas un Stradivarius ?
Non, malheureusement. Non. Avec des souvenirs d'enfance voilà, mémorables. Et donc, voilà, la musique, bah forcément, je l'ai en moi. Et les percussions, plus particulièrement. Et donc, vers l'âge de entre 2 et 3 ans, j'ai reçu mon premier tambour. Et en écoutant un disque, alors tu ne le connais peut-être pas, parce que c'est un disque voilà, que les Binchois connaissent, qui était réalisé par le papa de Guy Van Zyp. Van Zyp est un grand disquaire à Binche, etc. Eh bien, il y a tous les airs du carnaval. Donc, je mettais ça sur ma platine, c'était en 33 tours. Je mémorisais tous les airs au tambour. Voilà. Ben, mes parents, voilà, à l'époque, ont été voir le directeur de l'école en disant « Pierre, vous voudrez bien jouer du tambour avec vos tamboureurs qui, eux, avaient... ils étaient vieux, ils avaient 20 ans, tu vois.
Ah, » oui.
20,
oui,
30 oui, ans. Oui. Et donc, ils m'ont accepté pendant des années dans la société. J'ai passé des moments exceptionnels à jouer du tambour, à en avoir des cloches aux mains. Ah oui, parce qu'on joue pendant des heures, notamment pendant les cortèges.
Et ton premier carnaval, tu t'en souviens ?
Non, pas mon premier, mais je me souviens... je me souviens que voilà, mes grands-parents paternels, qui étaient des gens vraiment d'une gentillesse exceptionnelle, ils me suivaient. Donc, tu vois, dans une société, tu as soit les Gilles, soit les Pierrot, l'Arlequin, paysan, etc. Puis tu as la rangée de musiciens, d'abord les cuivres, et puis ensuite les tamboureurs. Et derrière, tu as les femmes de Gilles, ou les parents, ou la femme du tamboureur. Et mes grands-parents étaient toujours derrière moi. Et dès que je faisais une fausse note, je me retournais et mon grand-père me faisait un signe genre « Ah, t'inquiète, c'est pas grave, on l'a pas entendu. En fait, on n'entendait que ça. » Mais bon, il était tellement gentil que voilà, il voulait me faire plaisir tout le temps. Et puis, il était si fier de voir que voilà, j'accrochais à la musique. Mais lui n'a rien à voir avec Binche. Il est plutôt du côté de Namur. Donc, voilà.
Personne n'est parfait. Hein.
Bien sûr.
Ta passion pour la musique aussi, hein, c'est étonnant. Explique-nous un petit peu, explique-moi, s'il te plaît, d'où elle vient. Et qui t'a donné, indépendamment de ton grand-père, mais il y a aussi une nounou là, qui a joué un rôle.
Ah oui, Colette. Oui, tout à fait. Alors, il y a Colette, donc, qui était la nounou qui me gardait pendant que mes parents travaillaient toute la journée au magasin, juste en bas, parce qu'on habitait l'appartement au-dessus. Alors elle venait avec des 45 tours, des petites valisettes, tu sais, de 45 tours, des valisettes vertes ou rouges. Et il y avait du Christian Vidal, il y avait du Carlos, il y avait du C. Jérôme. Je pense qu'un de mes premiers disques que j'ai acheté, c'est l'Himalaya de C. Jérôme. Et puis il y a mon père, qui m'a fait découvrir, je pense en 78 par exemple, Chicago avec If You Leave Me Now. Il m'a fait découvrir les Platters, il m'a fait découvrir André Brasseur, l'organiste avec lequel il a été à l'école, d'ailleurs à Malone, à Saint-Berthois. Il m'a fait découvrir Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, tout ce monde de jazz. Donc j'ai été bercé dans une culture chanson française et jazz. Voilà. Pas du tout rock'n'roll. Ah, mes parents n'écoutaient pas les Beatles.
Et ça vient quand, cette passion pour le rock ?
Ça vient beaucoup plus tard.
Oui.
Ça vient beaucoup plus tard. Autant te dire que lorsque je suis arrivé à Radio 21 en 1992, il a fallu que je potasse. Et je continue d'ailleurs. Parce que quand je ne suis pas issu de l'éducation et de la culture rock'n'roll, ben voilà, il faut que je me renseigne pour ne pas dire trop de bêtises, bien que de temps en temps...
Et ton anglais, ça va ?
Je ne suis pas anglophone, donc voilà, on fait ce qu'on peut. Maintenant, on a eu des cours, on a eu des cours d'anglais. Alors, je pense que ça va un peu mieux, mais ce n'est pas non plus... mais ce n'est pas grave. Je pense que voilà, nos auditeurs sont assez indulgents, disons bon ben voilà, ils sont francophones, ils sont pas anglais, donc alors oui. Après je demande, il y a des spécialistes hein, ici, notamment Jean-Paul Smith-Mans qui était professeur de langue. Bah de temps en temps je lui demande, je dis voilà, on prononce ça comment.
Ce qui m'impressionne, bon, t'as déjà un peu calculé le nombre d'années que tu exerces ce métier ?
Bah 43 cette année. 43 depuis l'âge de 13 ans. Après, j'ai commencé à en vivre à partir de 86-87. Et puis, ben voilà, ça continue.
Toujours la même motivation, apparemment.
Ah oui, ça, c'est incroyable. Hein. C'est un des inconvénients, d'ailleurs, d'exercer un métier qui est une passion, c'est que le temps passe décidément très, très vite. Et trop vite. Voilà, j'arrive à... voilà, j'ai 55 ans, donc je suis plus proche de la porte de sortie que de la porte d'entrée professionnellement. Et je me dis, qu'est-ce que ma vie a passé vite ? Forcément, tous les jours, j'ai fait ce que je voulais faire très très tôt dans la vie. Donc, je me lève le matin d'excellente humeur, mais tout le temps. Je ne suis pas quelqu'un de négatif, au contraire. Et le fait voilà, d'exercer ce métier, ce contact avec l'auditeur, ce partage de la musique, pour moi est vraiment un truc essentiel, vraiment.
Et à ce propos, justement, tu as été le premier animateur sur Classique 21. C'est toi qui as lancé la première des annonces d'un disque.
Oui.
Qui était U2, je pense.
Et
c'était quoi
Day.
Beautiful Day. Hein.
Oui,
voilà.
Tout à fait.
Et tu étais dans quel état d'esprit quelques minutes ou quelques heures avant de lancer avant de désannoncer ce disque?
Mais déjà quelques jours avant. Hein, quelques jours avant, on a répété, à l'époque, on travaillait avec un réalisateur, un technicien, et donc on avait répété en temps réel l'émission, plusieurs fois d'ailleurs, 5-6 fois, wow. Comme une pièce de théâtre. Et puis, la veille au soir, impossible de dormir. Je me dis, je vais lancer une antenne nationale.
Et il fallait se lever tôt.
Il fallait se lever tôt, c'est un sacré challenge, c'est une confiance énorme qu'on me donne. Je ne dois pas me rater. Si je me rate, bah peut-être que voilà, ma carrière sera terminée. Et donc, je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis arrivé très très tôt, beaucoup trop tôt d'ailleurs, genre 4h du matin, 4-5 heures du matin ici. Après, l'antenne a été lancée et puis...
Le 1er avril
Oui, alors c'était pas un poisson, mais effectivement... C'était
1er avril 2004.
1er avril 2004, oui. Cette année 2024, ça fait 20 ans. C'est exceptionnel. Ça fait 20 ans que nous sommes toujours là. Et qu'on connaît un succès immense.
Radio Nationale, mais qui va bien au-delà des frontières en plus. Hein.
Oui, alors on a un succès, déjà du temps de Radio 21 et de Radio Cité, on avait beaucoup de succès dans le nord de la France. Maintenant avec l'Internet, c'est partout dans le monde.
Ça rejoint évidemment cette belle motivation intacte que tu as, c'est
oui.
Que le succès il continue d'exister et d'être croissant.
Oui, alors c'est pas un succès que je m'attribue, hein, loin de là, parce que c'est toute une équipe. On est évidemment bien managé aussi, voilà, donc on est enthousiaste dans tout ce qu'on fait, et on le fait évidemment avec passion. Je pense que s'il n'y a pas de passion dans ce qu'on fait, ça ne peut pas fonctionner. Cette passion, elle se transmet à travers les ondes. Et ça, les personnes qui nous écoutent le sentent, et ils le savent.
J'ai vu que tu avais écrit un bouquin qui s'appelle « Tu finiras sous les ponts ». Le titre m'interpelle. C'est une sorte de revanche sur une sentence qu'on t'avait donnée à un certain moment.
Ouais, disons que, comme on le disait en début de l'interview, j'ai eu une enfance merveilleuse, dorée, voilà. Et puis à l'adolescence, ça s'est un peu gâté, donc j'étais un peu le rebelle. Et puis, bon Pierre, il va falloir quand même que tu choisisses un métier, un vrai métier, parce qu'animateur radio, c'est pas un métier, voilà. Donc j'étais encore beaucoup plus rebelle. Et cette façon de me dire, une expression de chez nous, tu finiras mandai, tu iras au chômage, tu foutras rien de ta vie, tu finiras sous les ponts. En fait, toutes ces phrases, elles m'ont donné toute l'énergie nécessaire pour arriver à ce que je voulais. Voilà.
Bien. Passion pour deux roues, sans moteur et avec moteur. On va d'abord parler du vélo, peut-être de cette génération qui a vibré aux exploits d'un grand champion.
Oh ouais, Eddy Merckx. Il n'y a personne d'autre. Hein.
Non.
Il n'y a personne d'autre. Voilà. Je ne veux pas faire du chauvinisme, mais... Mais soyons chauvins. On a le plus grand champion de tous les temps.
Donc tu étais gamin, tu as vibré à ses exploits au Tour de France notamment.
Je devais avoir 3-4 ans la première fois, mais mes grands-parents, ils avaient un chalet à Barbançon. Tu vois, magnifique région.
Hein. Près de Beaumont. Hein.
Ouais, tout à fait. Et le week-end, eh bien, ils partaient... là-bas, dans leur chalet. Alors, il y avait un râteau sur le toit pour la télévision, noir et blanc. Et mon grand-père maternel, Marius, il ratait pas une seule minute du Tour de France. Donc, je m'installais sur ses genoux. Et puis, on regardait les prouesses d'Eddy Merckx, de Job Zoetemelk, de plein de champions.
Hein.
Voilà, de Poulidor, de plein de champions de l'époque. Et cette passion du vélo... Eh bien, je l'ai toujours, puisque je continue à regarder le Tour de France. Alors, évidemment, quand je suis en émission, il m'est impossible de regarder. Donc, voilà, je regarde quand ce sont les étapes de montagne, je regarde le début. Et puis après, je viens à la radio. Et puis le soir, je regarde le résumé. Le week-end, je ne suis pas en radio. Alors là, le week-end, quand c'est le Tour de France, pas avoir le feu dans le bâtiment où je suis, je ne le sentirai même pas. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a que ça qui compte. J'adore ce sport. Alors, on l'a décrié, on le décrit encore.
Tu pratiques parfois
Mais ça reste un sport très très dur. Alors oui, là maintenant, ça fait quelques années, j'ai eu un petit accident de vélo, une voiture m'a renversé. Et donc j'étais un peu refroidi. En plus, le vélo, c'est du carbone. Voilà, il s'est cassé. Je l'ai réparé. Il s'est de nouveau recassé. Et puis donc, et ça fait quelques années que je suis plus monté sur un vélo, mais je pense que voilà, ce printemps, cet été, je vais m'y remettre.
Ouais. Passion pour la moto aussi.
Passion pour la moto depuis que je suis tout petit. Je te l'ai expliqué, mais mes parents avaient des grandes surfaces, ils avaient le Sarma à Binche, et vers 18h, 18h30, les vendeuses, tu vois, terminaient leur service, et leur mari ou compagnon venait les chercher. Et parmi eux, il y en avait un qui avait une moto. Quand je dis moto, il avait une BM. Et cette moto me faisait rêver. Et je me suis toujours dit, un jour j'en aurai une. Bon, ben j'en ai eu trois. Voilà.
Toi, tu es un partisan des grandes balades.
Ben oui, alors j'ai fait l'étranger en moto, que ce soit l'Espagne, la France, l'Italie, la Corse. Ouais, j'ai fait pas mal d'endroits en moto, oui, tout à fait. Mais c'est une merveilleuse façon de découvrir les paysages et surtout les parfums et les odeurs. Quand on traverse des villages en moto, on peut dire ce que mangent les gens. Quand ils préparent leur repas, ça se sent en moto.
À vélo aussi, mais c'est beaucoup plus dur.
Alors voilà, ouais. Là, il faut résister.
Surtout en Corse ou dans les Alpes. Si on peut te souhaiter quelque chose pour les 30 prochaines années, c'est quoi?
La santé, ça c'est vraiment très important. On arrive maintenant dans une zone un peu plus dangereuse, hein, après 50 ans. De continuer à faire de la radio, mais de m'arrêter lorsque tout va bien. J'ai envie de laisser un goût de trop peu. J'ai envie qu'on me dise « c'était bien quand c'était toi », plutôt que de rempiler.
Faire la saison de trop, comme on dit en sport.
Ouais, voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut laisser la place aux jeunes. Et il faut pouvoir partir quand tout va bien.
Merci.
Classique 21, Close to You. Un podcast signé Dominique Dricot.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.